Sous le rocher, le homard. Mission proposée et animée par Christophe Abramowski. Les Chinois, ils l'entendent?
Bonjour à tous, sous le rocher le homard, une émission qui parle des enfants, des ados et de leurs parents. Vous nous retrouvez un lundi sur deux, le quatrième lundi de chaque mois, en direct de 19h à 20h, et le mardi suivant de 11h à 12h pour la rediffusion. Et pour les noctambules, vous pouvez même nous écouter dans la nuit de mardi à mercredi, entre 1h et 2h du matin. C'est dire, hein. Vous pouvez aussi nous appeler durant le direct au 05 62 27 23 23. Et vous pouvez nous écrire par courriel à souslerocher@gmail.com. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mort. Et plus particulièrement sur comment parler de la mort aux enfants. Quand on meurt, c'est au bout de combien de temps qu'on n'est plus mort? Interroge Johan, 6 ans. Dans Sage Parole d'enfant d'Edwige Gentier. Et oui, c'est quoi la mort pour un enfant de 3 ans? Pour un de 6 ans? Pour un de 10? C'est quoi la mort pour nous, adultes, responsables, parents? Cette question, largement évacuée dans nos sociétés, ressurgit brutalement à l'occasion d'un deuil. Et là, force est d'admettre que nous sommes souvent désemparés. Pourtant, l'enfant, quel que soit son âge, a besoin d'une réponse. D'une réponse adaptée à son âge, bien sûr, mais aussi d'une réponse adaptée aux morts en question. La mort du petit chat, ce n'est pas la même chose que la mort du grand-père, de la petite sœur, du père ou de la mère, ou de l'enfant lui-même. Pour traiter ce sujet, nous accueillons un invité, le docteur Michel Vinn, qui est pédopsychiatre à l'hôpital des enfants et qui dirige l'équipe de psychiatrie de liaison à l'hôpital Purpan de Toulouse. Et également, nous aurons deux chroniques dans cette émission. Elsa qui nous a préparé une petite création sonore, poétique, très jolie, dont elle a le secret. Et Jeff qui, comme chaque semaine, nous a préparé sa sortie d'école. Et on verra bien ce que ça va donner avec Jeff. Alors, docteur Michel Vinn, vous êtes donc le responsable de l'équipe psychiatrie de liaison à Purpan, à l'hôpital des enfants. En quoi ça consiste ?
Alors, la psychiatrie de liaison, c'est la psychiatrie du coucou, c'est-à-dire aller faire de la psychiatrie dans le nid des autres, hein, donc dans un service qui n'est pas dédié à ça, aux urgences, en chirurgie, en néphrologie, éventuellement en cancérologie, en hématologie. Autrement dit, dans des endroits où des enfants sont hospitalisés à temps plein ou en jour, hein, sous mm-hmm. forme d'hospitalisation de jour, ou bien reçus parfois en consultation, pour des maladies somatiques. Pour des maladies somatiques, c'est-à-dire qui touchent le corps et pas la pensée. Ce qui est un peu spécifique, c'est qu'aux urgences arrivent tous les enfants qui décompensent de manière un petit peu aiguë ou impressionnante. Et là, il y a des enfants qui posent des problèmes de tentatives de suicide ou de crises, je ne sais pas, d'agitation, d'opposition mmh. bruyante, enfin, hein, ou des choses qui sont à mi-chemin, où on ne sait pas trop si c'est le corps, la pensée, si c'est une crise d'angoisse ou une crise d'épilepsie, des choses
mélangées. Et dans ces cas-là, mélangées. On vous appelle, le service en question vous appelle voilà. Et vous venez...
Et donc, liaison parce qu'on nous appelle...
Vous êtes itinérant, quoi, exactement. À l'intérieur de l'hôpital
exactement.
Des enfants.
On est itinérant à l'intérieur de l'hôpital des enfants et nous n'avons pas de service dédié, de lit spécifique de psychiatrie dans cet hôpital. Nous travaillons avec les pédiatres en collaboration avec eux.
D'accord. Et vous êtes nombreux ?
Alors, c'est une équipe qui, maintenant, a été mise en place il y a 8 ans à peu près, et qui à l'époque, était originale dans sa forme, qui a été depuis répliquée. Donc, il y a deux infirmières à temps plein, qui sont très habituées aux problèmes de psychopathologie des enfants et des adolescents, qui ont travaillé très longtemps avant dans d'autres services de psychiatrie. Il y a aussi une psychologue à mi-temps, une secrétaire très importante que vous avez eu au téléphone, et puis un interne, donc un médecin, un psychiatre en formation, qui se spécialise en général dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Mmh. Et enfin, deux médecins à temps partiel, donc un à mi-temps, et moi, de mon côté, qui suis responsable de l'équipe et qui suis à temps quasiment complet.
D'accord, donc c'est quand même une équipe importante,
oui.
Parce qu'il faut dire que l'hôpital des enfants, c'est quand même une grosse structure à Toulouse.
Oui, l'hôpital des enfants, c'est un hôpital qui compte à peu près 200 lits, quelque chose comme ça, mais surtout qui fait passer 37 000 entrées en gros aux urgences par an, quelque chose comme 25 000 entrées par an, je crois, donc c'est quelque chose qui est tout à fait... impressionnant en termes de volume et aussi de rapidité de séjour. On ne reste plus à l'hôpital pendant plusieurs semaines, on y reste en moyenne un jour ou deux.
C'est,
deux
que, jours. C'est que quand même dans le cadre de votre travail, quelque chose qui ne doit pas être évident de travailler, enfin de faire un travail de psychiatrie avec des enfants qui sont de passage.
Voilà, vous avez très bien résumé un des questionnements importants de la psychiatrie de liaison, c'est le timing, c'est-à-dire que le temps du fait psychique, enfin, et du diagnostic et du traitement de ces faits psychiques, c'est pas celui du diagnostic et du traitement des douleurs corporelles. Autrement dit, les progrès techniques font qu'on peut aujourd'hui en 3 semaines, 4 semaines à peu près, prendre un enfant et transplanter un organe, le cœur même, y compris en un mois, il est ressorti chez lui.
Ah oui.
Ce qui, or, pour soigner, par exemple, un trouble des comptes alimentaires un peu sévère, même parfois on est hospitalisé pendant 2 ou 3 mois.
D'accord.
Oui, la sévérité n'est pas tout à fait la même, mais le timing n'est pas le même non plus.
Alors si je vous ai fait venir, enfin si je vous ai appelé pour que vous puissiez venir ici et vous avez répondu favorablement, c'était pour parler de la question de la mort et de cette question, comment on en parle aux enfants, parce qu'effectivement, quand on est parent, entre autres, mais éducateur et un adulte en général, c'est pas si évident que ça de parler de la mort, et effectivement, on peut se poser la question de quelle mort on doit parler. En introduction, je parlais de la mort du petit chat. C'est vrai que c'est pas pareil de parler du petit chat qui est mort et puis de parler de la mort du grand-père et éventuellement de sa propre mort. L'enfant aussi peut être confronté à sa propre mort. Et j'imagine que vous êtes amené à mettre des mots ou en tout cas à aider peut-être les parents sur ces questions-là.
Oui, alors en posant votre question perfidement, vous avez balayé l'ensemble quasiment du champ, puisque effectivement dans l'hôpital d'enfants, moi je ne suis pas spécialiste des enfants mourants ni de la mort, bien sûr, personne ne l'est. En revanche, je travaille en collaboration, c'est pourquoi tout à l'heure j'étais un petit peu flou sur les temps qu'on dédie à telle ou telle activité. Je travaille en collaboration avec des pédiatres et des infirmiers anesthésistes, etc., dans une équipe qui s'appelle équipe de soins palliatifs, et donc qui gère aussi la douleur chez l'enfant. Donc au sein de cette équipe, on est amené à rencontrer des enfants qui vont mourir. Il n'y en a pas beaucoup, on soigne très bien maintenant les maladies d'enfants. Par rapport à l'époque où j'ai commencé dans les années 80, on a fait d'énormes progrès. En cancérologie, on soigne 3/4 des enfants qui guérissent, ce qui est énorme.
Oui.
C'était à peu près l'inverse avant, il y a 25 ans. Mais un certain nombre vont malheureusement décéder. En tout, il y a à peu près une centaine de décès d'enfants dans l'hôpital d'enfants à Toulouse, qui est le gros centre pédiatrique de la région, par an. Et bien sûr, ça concerne le plus souvent des tout-petits, des bébés, des tout-petits, pour un tas de raisons, de fragilité, au fond, globalement. Mais il y a aussi des grands qui ont une maladie qui va devenir mortelle. Donc on est amené à rencontrer ces enfants, et là, on va parfois parler de la mort avec eux directement, ou avec leurs parents au moins, avec leurs proches, leurs frères, leurs sœurs. Donc voilà une des circonstances où on est confronté directement, nous aussi, qui sommes à la fois, enfin moi en tout cas, psychiatre, mais aussi parents. Et là, un enfant qui est en soins palliatifs, qui va mourir dans un délai relativement bref, c'est quand même une épreuve toujours terrible, et pour lui et pour sa famille, et aussi pour les soignants.
Bien sûr.
On s'habitue pas à ce genre de choses. Donc voilà un des pans sur lequel on pourra... discuter si vous souhaitez, l'enfant lui-même qui va mourir. Mais on est aussi appelé, malheureusement, de temps en temps, à rencontrer des enfants dont les parents sont décédés. Il arrive de temps en temps que l'été, un accident de la circulation, souvent il y a beaucoup de trafic, et les parents décèdent et l'enfant est là arrive à l'hôpital d'enfant.
Et dans ces cas-là, vous, vous êtes à même de les prendre en charge, en tout cas, psychologiquement?
Nous, on est à même, effectivement, de les prendre en charge, soit à plusieurs s'il y a des lésions aussi physiques, soit nous, notre équipe, si on est confronté uniquement à la détresse d'un enfant en deuil, d'une certaine façon, brutale.
Bien sûr. J'ai envie de savoir quand même si notre société, c'est vrai que on s'est éloigné de plus en plus de la mort, ou en tout cas on la cache, ou on alterne, on est entre finalement le fait de presque nier la mort, ou en tout cas de l'effacer de notre mémoire parce que ça nous fait peur, et puis en même temps elle est présente en permanence dans la télévision, les jeux vidéo, etc. Et l'enfant finalement, il se situe où là-dedans? Est-ce qu'il n'est pas un peu perturbé? Et est-ce que nous-mêmes, adultes, ne sommes-nous pas perturbés par cette question de la mort? Ou en tout cas, on cherche à l'évacuer?
Alors, vous avez sans doute raison. Hein, je ne suis pas un philosophe de la mort. Hein, Jean Kelevitch, qui est le plus célèbre, hein, qui a écrit au siècle dernier, donc maintenant, a balayé ce champ de manière tout à fait exhaustive. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la mort, et la mort des enfants plus spécialement, mais enfin la mort a eu des statuts divers hein, dans le corps social. Ce qui est le plus proche de nous et que les auditeurs peuvent comprendre assez bien, c'est que, ne serait-ce que pour nos grands-parents, le décès d'enfants était quelque chose qui était relativement fréquent. Toujours douloureux, hein, mais fréquent. Parce que on mourait parfois au moment de l'accouchement, on était moins fort en obstétrique, parce que on savait moins bien prévenir, surveiller les grossesses, parce qu'un certain nombre de pathologies nous échappaient, les pathologies infectieuses au début du XXe siècle n'étaient pas bien gérées ou pas gérées du tout, etc. Donc les enfants sont fragiles, ça c'est un des grands thèmes, à la fois de la psychanalyse et de la philosophie. L'homme vient au monde avec plein de potentialités, mais petit, et très démuni. Et c'est probablement parce qu'il est très démuni, d'ailleurs, qu'il est si adaptable et qu'il peut devenir si intelligent. S'il sortait tout près, déjà, il ne pourrait pas interagir avec son environnement. Et du coup, il serait limité à un certain nombre d'expériences. Alors que là, nous avons des années et des années, jusqu'à la mort quasi, pour acquérir des connexions neuronales, un tas de trucs qui nous permettent d'être à la fois très vif, très intelligent, très adaptable. Pas toujours pertinent ni raisonnable, mais adaptable. Mais cette fragilité fait qu'on meurt beaucoup, on mourait beaucoup, en tout cas, dans les premiers mois ou les premiers jours de vie.
Alors ce qui est toujours vrai dans les pays du tiers-monde, la mortalité infantile est très importante, et c'est la grande différence entre les pays riches et les pays pauvres. Donc en tout cas, ça donnait un statut à la mort très différent, le fait que les enfants mouraient plus tôt.
Elle était commune. Nos grand-mères, vos arrière-grand-mères à vous, allaient se recueillir à la Toussaint, qui vient de passer, sur des tombes d'enfants. Ils avaient perdu un enfant souvent, dans la famille, il y en avait souvent. Donc c'était quelque chose qui était plus commun. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas révolté, mais c'était plus commun. La deuxième chose, c'est que probablement... au XIXe siècle, ça a commencé à devenir un peu moins... autrement dit, on a commencé à se centrer sur la mort vécue par les proches et l'environnement social, la société. Protéger la société du fait mort. Ça, c'est une attitude très récente, en fait. Puisqu'avant, le mourant était à domicile, à la maison.
Oui, on le veillait, le mourant. Ouais, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Enfin, très rarement.
Alors, pour les adultes, c'est sans doute vrai. Et on a... il y a beaucoup de mourants qui vont se retrouver dans un hôpital, dans une clinique, dans des services où il n'y a pas beaucoup de soins palliatifs dédiés à cela. Pour les enfants, la famille est toujours au chevet d'un enfant. Mais quand vous disiez on a tendance à nier, à évacuer, on a eu tendance à évacuer ces phénomènes. Et très probablement que la mort, c'est un phénomène comme la sexualité, tabou. Alors, c'est un truc très singulier parce que la sexualité, c'est à mon sens toujours tabou. On en parle beaucoup. Mais en parlant beaucoup...
Et finalement, comme la mort.
Voilà,
Puisqu'il y en a plein de films où ça pétarade dans tous les coins, des jeux vidéo où les gosses jouent avec les PlayStation et autres Nintendo à faire la guerre et à se tuer les uns les autres. Et pourtant, étrangement, la mort, c'est quelque chose dont on ne sait pas parler.
Voilà, il y a plusieurs façons de cantonner un thème dans le peu de pensée ou le non-pensée. Une, c'est de rien en dire jamais. Mm-hmm. Et une autre, c'est de l'avoir quasiment en libre accès, hein, omniprésent. Et je ne suis pas sûr que le mystère de la sexualité, par exemple, qui est la rencontre intime de l'autre, enfin du radicalement autre, etc., et dans ce qu'il a de plus compliqué, puisque c'est à la fois psychique, charnel, etc., je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé, même si c'est un libre accès partout. Alors pour la mort, c'est un petit peu différent, en ce sens que probablement que les enfants du XVIIIe siècle ou du XVIIe étaient familiers de la mort petit aussi. Hein, oui. Ils la voyaient chez les animaux, ils la voyaient dans leur environnement.
Et puis les rites funéraires étaient organisés et les enfants y prenaient part comme les adultes.
Alors, je ne suis pas bien au courant, hein, j'ai pas repris l'histoire des rites funéraires, mais ce qui est certain, c'est que, à cause des progrès techniques, puis aussi de l'âge, hein, du décès qui avance, enfin, et puis des moyens que nous avons de traiter les avatars de la vie, on a essayé effectivement de reléguer la mort dans un domaine un petit peu à côté.
Oui.
Mais elle est omniprésente dans les mots. Autrement dit, un enfant à 2 ans et demi, 3 ans, il a déjà le mot mort dans son vocabulaire. On a même étudié le fait qu'il a probablement le mot mort avant le mot vie. C'est plus
compliqué.
Plus facile pour un enfant de dire il est mort, hein, plutôt que de dire il est en vie.
Ouais,
ça,
ouais.
Même le bon sens le sent bien. Hein, ouais. Donc ça se précède. Hein. On parle de mort avant de parler de vie quand on est petit.
D'accord. Ah, je crois qu'on a un intervenant au téléphone. Et si je ne m'abuse, c'est Bruno Boussagol.
Attendez, je me mets dans un endroit.
Bruno Boussagol, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où ? D'Auvergne, c'est ça ?
Voilà, je suis en Auvergne. Je suis à Clermont-Ferrand, dans une salle de spectacle où je joue ce soir.
Bien, écoutez, c'est très gentil de nous passer un coup de fil pour nous parler d'une exposition spectacle que vous avez mis en scène qui s'appelle « La Belle au bois mourant » ou « Comment parler de la mort avec les enfants ». Et voilà, j'aurais voulu que vous m'expliquiez un peu en quoi ça consistait, cette exposition spectacle.
Alors écoutez, c'est parti du travail d'une artiste qui s'appelle Servan Bouillard l'Espagnol et qui appuie en fait son travail sur des maquettes. Donc pour ce qui était de ce projet de La Belle au bois mourant, elle a réfléchi dans un premier temps sur la représentation au fond de la mort et comment à travers les rituels mais aussi à travers certains films, à
des
travers certains
aussi, hein,
comportements, on pouvait représenter ça par des maquettes, des petites maquettes.
Voilà, c'est et ça, puis, vous construisez des objets autour de la mort.
Pardon ?
Vous construisez des objets.
Voilà. Bah, vraiment, ce sont des maquettes, c'est-à-dire ce sont des paysages, ce sont des représentations qui se retrouvent après dans des meubles, et on ouvre ces meubles et voilà, et c'est éclairé, et on va retrouver la petite fille aux allumettes, on va retrouver un indien, parce que dans la tradition indienne, à un certain moment de la vie, on se dit bon, je vais monter sur la montagne. Sur la montagne sacrée et disparaître. Voilà, donc il y a comme ça une vingtaine à peu près de petits meubles.
D'accord.
Voilà.
Ça doit être quelque chose d'intéressant.
C'est très joli.
C'est pour les enfants de quel âge ?
Alors, disons que on s'intéresse à la tranche d'âge 8 ans, 13 ans.
8 ans, 13 ans, d'accord.
8 ans, 13 ans. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une représentation de la mort qui soit à peu près claire pour l'enfant. Et puis, bon, il faut encore qu'il y croit, j'allais dire aux légendes. Enfin, vous voyez, il faut qu'il y ait encore cette dimension-là. Pas passer 12, 13 ans, bon, on commence à s'ennuyer apparemment si on parle de ça.
D'accord. Et l'idée, c'est un petit peu de dédramatiser ou en tout cas de rendre accessible la question de la mort, d'ouvrir la discussion, la parole sur ce thème-là.
Oui, c'est plus compliqué que ça parce que on est dans une société au fond qui est dans une sorte de déni de la mort.
C'est vrai, on est en train d'en parler avec notre médecin psychiatre ici présent. Effectivement,
oui.
On est aussi, c'est vrai qu'on on posait la question du déni de la mort, oui.
Voilà, donc on est confronté à partir du moment où on s'adresse comme ça à un public, disons scolarisé. À toutes sortes de réticences, puisque les enfants, au fond, ne, ne, ne voient que des êtres vivants, et par exemple, c'est très rare qu'ils assistent à une veillée funèbre ou qu'ils assistent à une mise en bière ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, c'est ça le problème, j'allais dire numéro un, c'est que on croit protéger les enfants en les protégeant de la vision, disons, du corps mort, et ce qui me semble une erreur fondamentale. Et alors, ce qui du coup les coupe d'un réel, je dirais, de la mort. Et puis alors, surtout, et c'est ça qui est le plus grave, c'est de la symbolisation. Et nous, par le biais, ben, si vous voulez, du théâtre et des arts plastiques, on essaye de revenir vers une mise en récit, au fond, de la mort, et surtout de la mort à travers les continents, à travers les siècles, d'essayer de toucher dans l'enfant, c'est-à-dire dans son imaginaire aussi, les bribes de ce qu'il peut savoir de la mort. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très pauvre de ce côté-là chez les enfants. Et les pédagogues, alors, ne sont pas les premiers à s'engouffrer là-dedans, si vous voulez. Il y a une résistance très forte à notre travail, ça paraît incroyable.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est pas du tout facile d'amener les enfants à cette exposition.
D'accord. Bah, écoutez, venez faire un tour par Toulouse.
Bon, pourquoi pas. Bien sûr, mais il faut aussi, si vous voulez, on est dans un contexte où il faut que c'est un spectacle, donc il faut qu'il y ait des programmateurs, il faut que les programmateurs donc, aient les autorisations des rectorats pour que les enfants viennent voir les spectacles. Vous voyez, c'est très très complexe. Et il y a une résistance vraiment très forte du côté de ces rectorats à ce que...
C'est un sujet tabou, la mort.
Ah, c'est comme un sujet tabou. Ouais, vraiment, c'est devenu un sujet tabou. J'ai eu des retours, mais absolument incroyables, si vous voulez, pourquoi les gens ne venaient pas. On ne les vient pas parce que les parents, on risque d'avoir des problèmes avec les parents, les enfants vont faire des cauchemars. Enfin, vous voyez, tout ce genre de fantasmes, parce que c'est vraiment de la projection pure. De fait, tous les enfants, on a quand même maintenant quelques centaines qui ont vu ce travail, ce spectacle. Jamais il y a eu au contraire,
oui,
les gosses sont ravis de se confronter un petit peu à des gens, à des adultes qui n'ont pas peur de parler de la mort.
Bruno Boussagol, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes metteur en scène donc à la compagnie de théâtre Brut de Béton.
Oui.
Et on peut vous trouver peut-être une adresse internet pour nos auditeurs.
Il suffit de taper Brut de Béton production. Hein. Il faut rajouter le mot production parce que sinon vous allez sur des sites de travaux publics.
Oui, c'est vrai. Ça c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà. Donc, mais avec Brut de Béton production, vous arrivez très très vite sur notre site ou sur des sites qui parlent de nous. Voilà. Nous en ce moment, on travaille sur 68. Voilà, on joue un spectacle en ce moment qui s'appelle Woman et qui parle des femmes qui avaient une trentaine d'années en 68, donc en ont 70, 75 aujourd'hui, et voilà, et qui reviennent sur scène parce qu'elles ne trouvent pas que la société évolue dans le bon sens de leur point de vue.
Bon, c'est un autre débat. Écoutez,
voilà,
je vous remercie d'avoir...
C'est moi qui vous remercie.
Et écoutez, faites-nous passer votre programmation et on en parlera si vous venez sur Toulouse, hein, parce que...
Bon. Avec plaisir.
Merci bien et puis bonne représentation pour ce soir.
Merci infiniment.
Au revoir. Michel Vigne, alors, que vous inspire ce spectacle, cette exposition spectacle, enfin ce qu'en parle Bruno Boussagol.
Alors moi je suis assez d'accord hein, avec tout ce qui vient d'être dit, même tout à fait d'accord. On était arrivé à ce point hein, de notre échange à dire qu'il y avait quelques tabous qui se sont renforcés probablement hein, récemment, et celui de la mort en est un. L'idée que ça allait plus du côté des parents que du côté des enfants, ça je crois que c'est parfaitement vrai. Je crois que les enfants sont curieux. Hein.
Il a parlé de projection. Est-ce que c'est vrai que... Ça semble vrai quand même que l'on projette finalement quelque chose sur la mort, nous adultes, sur nos enfants, et du coup, on reste figé, coincé par rapport à cette question.
Oui, tout à fait. C'est un vrai phénomène de projection, c'est-à-dire ce que nous avons en nous, nous l'envoyons sur l'autre et on le voit comme sur un écran, hein, en pensant que ça lui appartient, alors que c'est à nous que ça appartient. C'est un phénomène de défense psychique bien connu. Mais projection, sans doute, hein, un des parents d'un enfant que j'ai soigné, enfin, ou que j'ai essayé d'accompagner, nous disait, mais ne rentrez pas dans la chambre parce que vous allez lui parler de la mort. Et si vous lui en parlez, il va être triste, enfin, il va se déprimer. Et moi, je ne le supporterai pas.
Ah oui.
Or, c'est probablement, enfin, l'expérience nous montre, et puis il y a des études, dont le caractère scientifique est correct, qui ne sont pas françaises, qui sont anglo-saxonnes, qui ont démontré que lorsque les parents, pas nous, pas les psys, ont pu parler de la mort avec un enfant qui effectivement va décéder, c'est beaucoup mieux pour tout le monde.
Oui.
C'est-à-dire que tout le monde est plus apaisé, et après, ceux qui restent sont probablement dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Parce que, effectivement, il y a une appétence pour de la part des enfants pour connaître le monde, y compris la mort. Donc, tout à fait d'accord. Il existe des guides méthodologiques pour les enseignants pour aborder ces questions-là, mais ils sont pas forcément, je les connais pas bien, mais ils sont pas forcément très dynamiques. Ils montrent bien toute la réticence et ils traduisent aussi nos difficultés. Peut-être il en est sorti depuis que je me suis penché sur la question de nouveau, mais ça n'est pas facile pour l'école, en tout cas, de se pencher sur la mort.
Mais un enfant qui pose une question, qui pose des questions sur la mort, enfin, il faut mettre des mots. La règle d'or, c'est ça, c'est de mettre des mots sur cette chose dont on n'est pas les spécialistes, personne, puisqu'on parle là, c'est qu'on n'est pas mort. Et puis quand on est mort, on parle plus. Je reprends un petit peu ce que disait Françoise Dolto dans parler de la mort, à une intervention qu'elle avait faite, une conférence, où effectivement elle dit, mais moi je veux bien vous parler de la mort, mais je suis pas spécialiste, je suis toujours vivante.
J'ai commencé tout à l'heure par ça en vous disant je suis pas spécialiste de la mort, en voyant que vous aviez Dolto sur le bureau, mais bien sûr, tout à l'heure je mêlais deux tabous exprès parce qu'ils sont, je crois, mêlés aussi cliniquement quand on rencontre les gens, la sexualité et la mort. Il y en a un qui est particulier, c'est la mort, parce que celui-là, personne ne le connaît vraiment.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et donc, en parler aux enfants, c'est un grand mystère.
Et donc, c'est compliqué d'en parler aux enfants. Du reste, certains enfants, les plus grands, par exemple, peuvent nous dire à nous, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a après? Où je vais? Quand ils sont eux-mêmes concernés, on est bien embarrassé pour leur dire, moi, je pense. Alors, on dit, moi, je crois. Ou bien, on leur dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Dis-moi. Et essayons de partager un peu ce que nous avons appris ou ce que nous avons en tête. Mais c'est pas si facile que ça. Alors que si, au fond, ils nous parlent de sexualité, on peut leur dire, ben voilà, moi, ce que j'ai vécu ou ce que j'ai appris, etc. Donc, c'est vrai que c'est une question... Qui est difficile à aborder. On comprend bien qu'il y a des projections parentales, puisque ce serait quelque chose qui viendrait... Alors, c'est peut-être les travaux des origines qui ont mélangé mélancolie et mort. Il y a un gros travail de psychanalyse du début qui s'appelait Abraham, et Freud l'a suivi juste après, enfin, a pris une partie de son boulot, en disant deuil et mélancolie, ce sont des choses qui se ressemblent, deuil et dépression. Ça se ressemble, c'est vrai. Mais parler de la mort avec un enfant est une expérience qui ne le rend pas triste. Ça, c'est sûr. J'ai fait cette expérience plusieurs fois et ça ne le rend pas triste. Au contraire. Du reste, ils en parlent entre eux. C'est facilement.
D'accord. On va marquer une petite pause musicale et Michel nous a préparé un disque. Alors, le titre, c'est Pépé.
Donnez-moi la menotte. Voilà ce qu'il disait. Quand on allait cueillir des mûres dans les sentiers, on ramenait rien, mangeait tout et tant pis pour la confiture. En rentrant, je marchais debout en équilibre sur les murs. Et la main qui serrait la mienne, c'était pour pas tomber. Au bout de la main qui tenait la mienne, il y avait Pépé. L'été, on partait en auto. Pépé conduisait comme un fou. Et quand on doublait un vélo, fallait crier vas-y poupou. Sur la plage avec ses jumelles, de loin ils surveillaient nos bains. Mais je crois plutôt que c'était les belles Pépé qui mataient l'air de rien. Pépé, c'était le roi de la soupe. Sachet tomate au vermicelle. Ça vous épate, ça vous la coupe. Mais je suis aussi le roi de la vaisselle. Attention, regardez-moi bien, voilà comment il faut pas faire. Et d'un coup de langue comme un petit chien, l'assiette est prête pour le dessert. Dans son jardin, il y avait des fleurs. À la cave, c'était son royaume. Un bric-à-brac de bricoleurs. ça nous épatait, nous les mots. Dans sa chaise longue après la sieste, Pépé y faisait les mots croisés. Balèze du télégramme de Brest, j'aimais bien l'odeur du papier. Des fois, il nous emmenait au port de commerce pour voir les bateaux. On rigolait quand le vent fort volait sa casquette à carreaux. Ça lui dessinait un sourire sur sa figure de vieux marin. Ça balayait tous les souvenirs, la nostalgie et les chagrins. Donnez-moi la menotte, voilà ce qu'il disait. Quand on allait cueillir des mûres dans les sentiers, des mûres, j'en ai connu des tas, pas faciles à escalader. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que Pépé m'a donné, dans sa main qui serrait la mienne, quelque chose pour pas tomber. Au bout de la main qui tenait la mienne, il y avait Pépé.
Mission proposée et animée par Christophe Abramowski.
Et aujourd'hui, nous parlons de comment parler de la mort aux enfants avec le docteur Michel Vigne, qui dirige l'équipe de psychiatrie de liaison de l'hôpital des enfants de Purpan à Toulouse. Et Michel Vigne, on ne parle pas de la mort de la même manière, un enfant de moins de 5 ans à un de 10 ans, il y a des âges, on en parle différemment.
Alors, posé comme ça, oui, bien sûr, on en parle sans doute différemment. Première chose, on l'a bien vu tout à l'heure avec le correspondant au téléphone, il est quand même utile d'en parler. Dolto le disait déjà il y a quelques années maintenant. Mais oui, enfin, il est utile d'en parler. Parce que de toute façon, c'est bien là. Donc, les enfants jouent à la mort très tôt. Tu es mort, tu es tué. Dans leurs jeux vidéo, ils gagnent des vies, ils tuent en permanence. À la télévision, n'en parlons pas. Ils voient la mort très fréquemment. Ceci dit, moi, j'aurais du mal à vous dire comment en parler. En revanche, je peux vous dire un petit peu comment les enfants pensent. Et en fonction de ça, on pourra leur donner des réponses adaptées. C'est-à-dire ne pas essayer de leur imposer notre vérité d'adulte, notre façon de penser d'adulte, mais s'adapter à leur cheminement. Donc il est intéressant, d'une part, de pouvoir aborder ces questions-là, et surtout, au minimum, de répondre aux questions des enfants.
Bien sûr.
Et je crois aussi, phénomène qui est dans tous les domaines un petit peu identique, c'est que quand on est prêt à répondre, alors les gens vous posent des questions. Autrement dit, quand on n'est pas du tout ouvert, ben, en général, les gens ne vous demandent rien. Donc, lorsqu'on a réfléchi un peu soi-même, les enfants peuvent poser des questions plus facilement. Donc, l'idée, le concept de mort, il évolue en fonction effectivement de l'âge de l'enfant, de ses capacités de penser, capacité cognitive, on dira aujourd'hui, sa façon de penser les choses, le monde. On accède à la pensée vraiment abstraite que très, très tard, enfin assez tard, après 7-8 ans. Quoi, Donc au début, c'est très concret. Les enfants tout petits, avant 3 ans, ne connaissent pas la mort, pas comme ça en tout cas. Ils commencent à dire le mot entre 2 ans et demi et 3 ans, ceux qui parlent tôt. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en revanche, ils connaissent des choses qui probablement sont les préformes. Ont à voir avec ce que nous, on imagine comme pensée autour de la mort. C'est la séparation et l'absence. C'est-à-dire, c'est la période où se joue l'attachement. Enfin, c'est ce phénomène d'attachement qui peut être de qualité variable en fonction de l'enfant et des personnages qui vont s'occuper de lui, tout simplement. Et dans l'attachement, il y a un envers du décor qui est celui de pouvoir perdre ses objets d'attachement. Autrement dit, très tôt, on a observé que les enfants réagissaient à l'absence des êtres qui s'occupent d'eux, qui les aiment ou qui les nourrissent, qui les choient, enfin, qui s'en occupent, qui sont là au quotidien. S'occuper d'un enfant, c'est pas simplement l'aimer, c'est aussi lui donner ce dont il a besoin.
Être présent.
S'adapter, avoir une présence physique, une présence psychique, ne pas l'oublier quand on s'en va, dans sa tête. C'est pas simplement quand il est là qu'on s'en occupe aussi quand on l'a pas sous nos yeux. Donc, Évidemment que l'éloignement, l'absence, c'est quelque chose qui a à voir hein, avec ce qui après hein, sera l'idée de « il est mort, il n'est plus là ». Hein. Au début se joue la question de savoir si celui qui est parti ou celle qui est partie va revenir. Hein. Donc le travail psychique de l'enfant, c'est quand même d'avoir confiance dans le fait que l'autre qui n'est pas là hein, va revenir, s'occuper de nouveau de lui, etc. Ça, c'est un apprentissage d'une certaine façon, enfin, hein, qui se joue bien évidemment en échange constant avec le, nous on dirait avec la mère, mais c'est pas vrai, enfin avec la mère bien sûr, mais avec les personnes qui sont autour de lui, les adultes qui sont autour de lui. Mais ça, ça fait le lit, hein, probablement, des pensées sur éloignement, absence, présence dans mon champ de vision, etc. Puis plus tard, entre 3 et 5 ans, ben là, il commence à avoir une représentation de la mort. Tu es mort. Alors d'abord, la mort...
C'est lié toujours à la séparation, c'est la question.
Alors, ça reste lié à la séparation, mais enfin, il commence à s'approcher entre 3 et 5 ans d'un concept de mort, d'une idée, d'une représentation de la mort. Très concret quand même, hein. Mais enfin, ce concept concret, c'est un petit peu hein, antinomique, mais oui, d'une image, quelque chose qui a dans sa tête à voir avec la mort. Par exemple...
Mais quand il écrase un escargot...
Oui, il peut dire il est mort.
Il est mort.
Mais est mort à ce moment-là, ce qui ne bouge plus. Hein. Oui. Ça va comme ça jusqu'à 7 ans à peu près. Hein. Il est mort parce qu'il ne bouge plus. Ou bien il est mort parce qu'il n'a plus de fonction vitale, il mange plus, il chante plus, il parle plus, etc. Un petit garçon que 3 ans et demi, hein, 4 ans, qui avait porteur d'une maladie très sévère, hein, que j'ai rencontré, et tout le monde se demandait s'il pensait à la mort. Parce que, bon, on s'occupait de lui, il continuait à jouer, il continuait effectivement à vivre sa vie d'enfant, hein. Et tout le monde était très douloureux parce qu'on savait que ce petit garçon n'allait pas vivre, mais on ne savait pas du tout quand et comment il pourrait décéder ou mourir. Et alors, un jour, il me dit comme ça, et on discutait tranquillement, et il me dit, mais tu manges, toi ? Alors, je lui dis, oui, enfin, moi, je mange, oui, enfin, de bon appétit, comme ça. Il me dit, ça va, alors c'est que tu n'es pas mort. Parce que moi aussi, je mange. Donc, je ne suis pas mort. Hein. Et voilà sa façon à lui, 3 ans et demi, hein, de manipuler, de jouer avec, enfin, hein, de se figurer quelque chose qui avait à voir avec la mort.
En fait, c'est une prise de conscience de la vie.
Voilà, une prise de conscience d'un processus, de quelque chose qui est pas le tout à fait.
Tant que je vis, finalement, je suis pas mort.
Voilà, tant que j'ai des fonctions vitales, je suis pas mort. Alors ça va, mais à cet âge-là, avant 7 ans, la mort n'est pas réversible. Par exemple, on peut avoir un enfant de 5 ans, tout à fait intelligent, bien éduqué au sens qui est entendu hein, des adultes, et à qui on va dire, ben voilà, tu sais, machin. Voilà, c'est la fin de sa vie, il va se coucher, et puis il va fermer les yeux, et puis il sera plus jamais avec nous, il pourra plus jouer avec toi, etc. Il sera mort. Alors le petit garçon dit, oui, j'ai compris. Tu as compris ? Oui, oui, j'ai compris. Et alors il répète spontanément, on ne lui demande rien, les parents sont là, le petit garçon il dit, oui, mais il va se coucher, enfin comme s'endormir, enfin il va, puis il ne bougera plus, puis après il ne pourra plus jamais venir, je ne le verrai plus jamais. Tout le monde satisfait, soulagé, on a bien communiqué avec lui. Deux secondes après, un instant, une pause, comme ça, il dit, après, il va se réveiller, et après, on pourra jouer de nouveau. Hein, voilà. Donc, c'est pas irréversible.
Ouais, c'est ce que reprend, c'est, Edwige Gentier, la petite phrase que j'ai citée au début. Quand on meurt, c'est au bout de combien de temps qu'on n'est plus mort?
Voilà.
6 ans. Johan, 6 ans.
5-6 ans. Hein. Donc, il joue aussi à des jeux. Tu es mort, je te tue, tu es mort. On a joué ça, hein, même avec des jouets non électroniques. Hein, on jouait, tu es mort, tu es tué, tu ne bouges plus. Tu n'as plus le droit d'intervenir dans le jeu, mais tu peux vivre de nouveau. Enfin, rien n'empêche, une fois passé un signal, que tu te relèves. Donc, ça n'est pas irréversible. Et ce n'est pas non plus universel pour les petits de avant 7 ans ou 8 ans. C'est-à-dire que ça ne va pas toucher tout le monde. Quand ils s'approchent de 7-8 ans, ça touche les personnes âgées, mais pas leurs frères ou leurs sœurs. Ça, c'est pas possible. Alors, le phénomène compliqué, c'est que ça va évoluer et que, bien évidemment, autour de 9 ans, 10 ans, ils commencent à avoir une représentation de la mort qui ressemble à la nôtre, c'est-à-dire un phénomène qui est effectivement irréversible et universel, qui peut même les toucher à eux.
Hein.
Et en plus, quand on est petit, on est tué. C'est-à-dire que la mort vient d'ailleurs. Hein. Alors qu'à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils commencent à comprendre que la mort peut venir d'une maladie ou d'un accident ou d'un acte violent, hein, mais... de façon diverse. Voilà. Et puis les adolescents, à partir de 12 ou 13 ans, ont une pensée comme les adultes. Alors, comme les adultes, oui et non, et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'on peut tout à fait, par des phénomènes qu'on appelle, nous, de clivage, hein, que personne n'a jamais vu physiologiquement, enfin, qui partagent la pensée en deux champs ou trois champs, avoir un champ dans lequel on a compris tout ça, et un champ dans lequel on n'y croit pas. Autrement dit, par exemple, un grand frère, même de 12 ans, hein, qui a son petit frère qui va mourir, il sait qu'on lui a déjà dit, il a compris, intellectuellement il a compris, mais dans sa tête, non seulement il fait comme si ça n'était pas vrai, mais il y a une partie de lui qui n'a pas entendu ça, qui ne peut pas l'entendre. Donc ça, c'est un phénomène différent.
Michel Vigne, je vous propose d'écouter une petite composition d'Elsa. Elsa qui est sur le plateau. Bonjour Elsa. Elle refuse de prendre le micro.
Bonsoir, ben non.
Donc Elsa, tu nous as fait une petite composition, une petite fabrication sonore comme ça, artisanale. Et ben, t'as pris du plaisir à faire
ça. Oui, bien sûr. Bien que le thème ne soit pas, ne m'ait pas forcément égayé, mais j'ai essayé de reprendre le mot mort dans un tas d'expressions qu'on emploie finalement très couramment.
Eh bien, on va se l'écouter.
La mort, arrêt des mécanismes biologiques propres à un être vivant, cessation de la vie. Être plus mort que vif. Je l'ai oubliée, elle est morte à mon cœur. Être mort de fatigue, être mort de froid, être mort de faim. Une ville morte. Du bois mort, des branches mortes. Une langue morte. Un temps mort. Une tête de mort. Faire le mort. Un mort vivant. Une morte saison. À la vie, à la mort.
Mais voilà un bel objet sonore de la fabrication d'Elsa, que l'on remercie, c'était très joli. Là, on a vu à travers cette petite création sonore des expressions, mais il y a aussi des expressions toutes faites hein, que l'on énonce aux enfants. On leur dit par exemple, il est parti faire un long voyage, ou bien il est dans un long sommeil, ou bien il est dans le ciel. Et puis quand ça peut induire chez l'enfant, s'il est parti faire un long voyage, qu'il va rentrer. Hein. Est-ce que c'est des termes à utiliser comme ça avec les enfants? Est-ce que c'est pas un peu dangereux finalement?
Alors, dangereux, j'irai pas jusque-là, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les métaphores hein, sont difficiles hein, à passer, parce qu'en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les enfants vont parfois les prendre argent comptant, c'est-à-dire que il s'est endormi, donc il va se réveiller, ou il est parti pour un long voyage, donc il va revenir.
Oui.
Alors, quand ils sont dans la pensée très, très concrète, comme ça, hein, avant les opérations un peu abstraites, c'est peut-être pas utile d'utiliser ce genre d'image, de métaphore. On peut leur dire les choses avec des mots simples, hein, adaptés à eux. On peut céder de petits bouquins dont on parlera éventuellement plus tard. Mais ces métaphores sont pas toujours utiles. Dangereuses, je le crois pas, parce que
c'est un peu fort.
Elles viennent pas seules comme ça. C'est-à-dire que les parents, quand ils commencent à dire ça, c'est qu'ils ont commencé à parler. Et quand ils ont commencé à parler, déjà, on a bien avancé, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rien passé du tout. Mais le danger n'en a pas été scientifiquement mesuré. Mais c'est vrai qu'on a de temps en temps des malentendus. Mais on peut en avoir aussi avec les meilleures intentions du monde.
Oui.
Donc,
Mais l'idée, c'est quand même d'utiliser des paroles justes, les plus vraies possibles quand même.
Oui, moi je crois que c'est utile de leur dire les choses le plus clairement possible et les paroles les plus vraies possibles. Quand on peut... Nous discuter avec des enfants avec des maladies graves, très sévères, qui ne vont pas bien, qui s'angoissent, qui font des rêves effectivement répétitifs, ils ont plein de médicaments, c'est pas si simple que ça de savoir comment et pourquoi ils sont inquiets. Mais enfin, souvent, lorsqu'on arrive à parler avec eux de la mort, leur dire « mais est-ce que toi, tu as eu peur de mourir ?» Et bien là, ils vous disent les choses clairement, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans. Alors qu'avec les parents... jamais, hein, du moins au début, ils ne vont leur dire j'ai eu peur de mourir et c'est pour ça que. Hein, je me rappelle une petite fille de 10 ans hein, qui était récemment, il y a 2 mois, dans une unité stérile, etc. Et qui me disait mais moi, ça va pas, la journée je suis bizarre comme ça parce que j'ai des images, je me vois morte, hein, je me vois dans le cercueil, etc. Et ça, si je le dis à maman, je vais lui faire de la peine. Les enfants protègent leurs parents.
Mmh, hein oui.
Donc c'est pourquoi c'est intéressant que les parents eux-mêmes cheminent pour pouvoir être plus ouverts tranquillement à leurs enfants.
Bien sûr, bien sûr. Mais comment on fait pour aider un enfant qui est touché par un deuil? Comment vous procédez? Parce que vous avez dû avoir ces cas-là de temps en temps.
Oui, alors on a... Il y a plusieurs cas de figure. D'abord, même les tout-petits, les bébés, hein, sont sensibles au deuil, à la perte d'un papa, d'une maman, d'une personne proche. Puisque je vous parlais tout à l'heure de figure d'attachement. Et de,
oui.
Mais évidemment, quand on les perd, même si on ne sait pas hein, qu'il est mort hein, ou elle est morte, on est effectivement touché. Hein, alors, qu'est-ce qui s'imprime hein, dans le souvenir ou dans les habitudes, dans les comportements? Ça, c'est moins simple à définir, mais touché, sans doute. Donc... En revanche, la clinique, c'est-à-dire l'observation des enfants et puis l'entretien avec eux, les jeux, etc., des enfants qui sont victimes d'un deuil, est une histoire un peu complexe. Alors, d'abord, on recommande aujourd'hui, chaque fois qu'un enfant a perdu quelqu'un, qu'il puisse parler avec un adulte qui ne soit pas lui-même endeuillé. C'est-à-dire qu'il ne soit pas impliqué effectivement, totalement dans l'histoire. Hein,
oui, mais par exemple... On perd notre père, mmh. et donc nos parents, et donc le grand-père de l'enfant, mmh. on est endeuillé, mmh. nous aussi. Mmh. Et ça veut dire qu'il faut qu'on s'interdise d'en parler ?
Bien sûr que non, ça veut dire qu'on peut en parler à l'évidence, mais qu'il est intéressant en plus de procurer à l'enfant la possibilité d'en parler avec un autre tiers, quelqu'un qui n'est pas...
Ça
peut être un ami, ça peut être le docteur traitant, le pédiatre... Mmh. Un psychologue, pourquoi pas. Hein.
Ouais, ouais.
Mais c'est intéressant de lui donner ces deux registres comme ça. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, même chez les petits, hein, on propose de les amener au cours du peu de rituels qui nous reste, c'est-à-dire les cérémonies, les obsèques, éventuellement rendre un dernier hommage au corps d'un défunt, etc. Il faut y faire un petit peu attention, en ce sens que un petit, quand il voit un lit, le voit pas comme vous, il le voit pas de haut, hein, il le voit du ras du sol. Donc, il est utile
de le porter
aussi, hein, de varier un petit peu ses points de vue.
Puis j'imagine que la présence physique aussi d'avec la personne
tout
qui le porte est importante.
C'est plus chaleureux. Donc, ouais. Et puis, on a des expériences, hein, par exemple, d'une petite fille qui, un mois après la perte de son grand-père, fait tout d'un coup une espèce d'attaque de panique très aiguë et elle délire, elle entend des voix qui lui parlent, etc. On l'amène à l'hôpital, mais on s'aperçoit qu'en réalité, c'est lié au deuil du grand-père. Et que les parents, de toute bonne foi, l'ont accompagné hein, dans ce deuil, ils ont parlé de la mort, ils ont même accompagné au lit de mort du grand-père, sauf que elle a touché la main du grand-père, qui était froide, et que ce contact l'a totalement sidéré. Et que personne n'y a fait attention, parce qu'on était recueillis, enfin, et que du coup, elle n'a jamais pu en reparler. surtout que on l'a accompagnée aux obsèques, etc. Elle était accompagnée, mais qu'après, au fond, le travail de deuil des parents s'est fait le soir en discutant, en faisant des papiers, en remplissant, en faisant des démarches, en rangeant des affaires, en téléphonant à l'un à l'autre. Mais ça, notre petite fille en a été exclue. Mmh. Elle y était plus. Autrement dit, les parents lui ont fait le début du travail de deuil, enfin la partie cérémonie, mais pas la suite. Autrement dit, il y a bien une suite. Pour nous, les choses se digèrent psychiquement à travers tous ces moments.
Ça veut dire qu'on pouvait amener la petite fille, par exemple, dans la maison du grand-père qu'elle fasse avec nous, éventuellement, les bagages, enfin, les préparer les affaires, ranger, etc. Oui, montrer qu'il y a là absence. Pour toujours.
Bien sûr. Faire avec, sans aucun doute, mais aussi lui dire, tiens, hier soir, on a eu tante machin, on lui a parlé du grand-père, etc. Hein, voilà.
D'accord.
Puisque, donc, on recommande de parler clairement des choses, de pas trop utiliser de métaphores trop éloignées, en tout cas, de la réalité, ou au moins de ce à quoi on croit. Hein, lorsque les gens croient dans une famille, au paradis, après tout, ils partagent la croyance avec leurs enfants. Et puis, d'accompagner l'enfant, que l'enfant accompagne plus exactement, on ne sait pas qui accompagne qui dans le rituel, avec quand même la présence de quelqu'un qui est dédié à l'enfant. C'est-à-dire que si c'est trop long pour un enfant de 5 ans, 6 ans, même 8 ans, ou s'il manifeste des signes d'impatience, quelqu'un peut se tourner vers lui et puis le faire sortir, rentrer, enfin discuter avec lui, être un peu disponible pour lui.
Bien sûr.
Voilà. Et puis de ne pas s'arrêter là, puisque aujourd'hui les gens ont à peu près entendu, enfin un certain nombre de personnes ont entendu ça, mais ça s'arrête là, et donc ça laisse l'enfant aux prises avec la partie dramatique au fond du rituel, alors que ce n'est que le début au fond d'un processus plus compliqué.
D'accord, Michel Vigne, je vois que vous êtes extrêmement brillant en timing, parce que vous avez compris qu'à cette heure-ci, c'est le moment de la chronique de Jeff, sa chronique sortie d'école. Alors Jeff, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de l'école
cette fois-ci on a testé le dialogue de sourds.
Ah.
Donc avec des allées et venues dans la journée. Donc en sortant de l'école, on a à peu près deux solutions. Soit on discute de la journée, comment elle s'est passée. Oh, le téléphone sonne.
Oui.
C'est
peut-être l'école qui appelle.
J'ai oublié de laisser plus parler. Donc soit on discute de la journée, comment ça s'est passé, etc., etc. Soit on passe radicalement à autre chose parce qu'on sent que c'est pas le sujet. Donc ça dépend des jours, de l'humeur. Hein. Donc aujourd'hui, c'est bonjour ma chérie, ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui. Et souvent la réponse c'est bien. Donc là, j'essaie un peu, mais encore, t'as joué, t'as dessiné, t'as fait du sport, bien. Du jardinage, peut-être, chanter, danser, bien. Donc là, je sens bien que c'est pas le jour. Donc on continue à marcher tranquillement, et puis tout d'un coup, la question arrive doucement sur les lèvres de ma petite maternelle préférée. Papa, toi, t'es fâché? Alors là, je fais une marche arrière rapide sur la journée, qu'est-ce qui a pu se passer? Et là, je me rappelle, donc le matin, le départ pour l'école, c'était un peu la guerre quand même. Vous allez croire que c'est souvent, mais un combat un peu au corps à corps, quoi, du genre habille-toi, mets tes chaussettes, non, t'enlèves pas tes chaussettes, je t'interdis d'enlever tes chaussettes, bon, tu remets tes chaussettes, bois ton lait, fais attention avec la confiture, le lait, paf, le lait qui se renverse. Donc voilà, déshabille-toi, les chaussettes aussi, voilà. En fait, bon, voilà, un truc, voilà, qui se passe gentiment. Là, j'en parle avec le sourire, mais quand ça arrive, c'est en général au dernier moment. Donc on mettra pas, évidemment, la version longue de Cendrillon, 10 minutes avant de partir à l'école, parce que c'est hors de question. Et donc la suite est un engrenage abominable, qui frôle les manquements paternels aux droits élémentaires de l'enfant. Donc l'enfant pleure, le père qui hurle. Ou l'inverse.
Attention, nous sommes en présence d'un pédopsychiatre. Mais bon.
Mais de toute façon, ça se termine de la façon suivante. Strictement, c'est maintenant. Tu fais ce que je te dis, il est 8h37, l'école est fermée à 8h45, on est en retard, on y va, quoi. Et que ce soit juste ou injuste.
Ah, donc, on sent l'autorité paternelle.
Ouais. Donc une de ces petites scènes qui font tout le charme d'une paternité heureuse et assumée au petit matin. Surtout, cette semaine, ma cafetière était en panne. Et donc, retour à la sortie de l'école, donc le soir, 4h30, je suis dans les temps, le juste, avec ce dialogue hallucinant et qui me servira de conclusion. Donc, j'en reviens à « Papa, toi, t'es fâché ?»« Moi, mais non, c'était ce matin, c'est passé, c'est pas grave. »« Mais si, t'es fâché, toi t'es fâché. Non, 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 je te promets, ma puce, j'ai fini, je suis plus en colère, c'était ce matin, c'est passé. Mais si, t'es fâché, papa, toi, t'es fâché. Oh oui, si tu veux, je suis fâché, voilà. Ah, papa, oui, pourquoi t'es fâché?
Mais voilà, voilà, c'était la chronique
c'était
de Jeff.
C'était ma sortie d'école de la semaine.
C'était très, très mignon, comme d'habitude, et puis bon, voilà, c'est une vraie histoire, hein, les sorties d'école de Jeff. Alors, c'est... Nous avons parlé de comment parler de l'amour aux enfants avec docteur Michel Vigne. Et vous avez quelques livres à nous conseiller, Michel Vigne. Qu'est-ce que...
Je vois que vous en avez vous aussi.
Oui, moi
j'ai... Le petit ouvrage facile d'accès de Françoise Dolto, qui est un classique. Hein,
oui, il parlait de la mort. Il n'est pas récent. Hein, il a été publié en 98.
Oui, mais il est encore volant, beaucoup plus ancien.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, Françoise Dolto a commencé un petit peu comme les pédiatres en anglais, la Winnicott, hein, à faire des conférences à la radio, justement, hein, pour expliquer aux gens.
Mais sur France Inter,
donc,
notamment.
Oui, donc c'est accessible. Mais il y a des choses plus récentes. Alors, les parutions en matière de presse pour les enfants s'épuisent rapidement. Donc, c'est vite démodé, non pas tellement le contenu, mais comme c'est tiré souvent à pas beaucoup d'exemplaires,
ouais.
Les biographies de 98, 95, on ne peut pas les trouver. Donc... il y a effectivement... alors l'âge, évidemment, en fonction de ce qu'on a raconté, pour discuter autour d'un livre, c'est quand même entre 5 et 8, 9 ans. Quoi.
Oui.
Après, il se débrouille tout seul, on peut leur montrer le livre, on en discute après, mais avant... bon, ouais.
Ah ben, moi j'ai quand même acheté « L'arbre sans fin » de Claude Ponty, c'est de l'école des loisirs, et c'est pour les enfants de 3 à 5 ans,
c'est ça.
Hein, c'est ça. Alors c'est très joli, le graphisme est très beau et l'histoire est très très belle. Donc ça parle de la mort, mais c'est très ça parle pas que de la mort, quoi. Bien c'est quelque chose de très.
Donc il y en a plusieurs. La vie et la mort aux éditions Milan. Hein, et je crois qu'il est en CD aussi. C'est une collection qui s'appelle Les Goûters Philo.
Les Goûters Philo, c'est ouais, ça. C'est Milan jeunesse.
Ouais, c'est ça. Hein, donc 7 ans, 8 ans, voilà. Il y a ensuite un truc qui est pour les plus petits, enfin un ouvrage hein, qui est pour les qui s'appelle La découverte de petits bons. Alors je l'ai parcouru, c'est une grenouille, je crois, qui trouve un oiseau mort, enfin, et qui se pose des questions autour de ça. Il y a un ouvrage qui s'appelle aussi Thomas et l'infini de Michel Déon chez Folio Cadet pour les 8-9 ans.
D'accord.
Voilà. Il y a également disponible, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec la chanson, là, autour de la mort d'une grand-mère, hein, Les ailes du souvenir.
D'accord, voilà. Oui. Il y a aussi Louis a perdu sa mamie de Claire Picard, voilà. Chez Albin Michel.
Exactement.
Hein, oui.
Qui doit être tout à fait disponible
et,
encore.
Et sur un livre qui vient de sortir, ça c'est pour les adolescents. C'est un roman, hein. C'est un roman, mais sur la thématique de l'amour, qui s'appelle La Déclaration ou l'histoire d'Anna, de Gemma Mallet aux éditions Naïve. Alors, c'est une fiction, évidemment. Ça se passe en Angleterre en 2140, et où les adultes peuvent choisir de ne plus mourir s'ils renoncent à faire des enfants. Donc, on a vraiment la question de. Voilà, c'est une fiction qui est à mon avis intéressante. Je ne l'ai pas lu, mais voilà, j'ai eu la quatrième de couverture. Ça paraît intéressant. Bon, voilà, ça s'appelle La Déclaration, l'histoire d'Anna, de Gemma Mallet, édition Naïve. Est-ce qu'on peut donner aussi des adresses pour les gens, des informations pratiques? Bon, on peut parler de l'hôpital des enfants, bien sûr, mais ça, c'est un grand classique. C'est pas tellement là que l'on va pour quand on a envie un deuil.
Oui.
Il y a des associations.
Il y a des associations. On peut trouver ça. Alors, j'ai pas. Mais
Vivre son deuil, j'avais trouvé.
Oui,
moi,
tout à fait. C'est une association nationale, voilà, à Paris. Vivre son deuil. Il y a une association qui ressemble, qui s'appelle l'ASP. On la trouve sous ce sigle à Toulouse, mais j'ai pas les coordonnées téléphoniques. Je les ai pas amenées.
Il y a Apprivoiser l'absence aussi.
Voilà. Il y a le centre François-Xavier Bagnou, qui est aussi accessible sur Internet et qui est à Paris. Donc, il y a une bibliographie et des conseils sur. Comment appréhender le deuil avec les enfants, etc. Donc il y a un certain nombre d'adresses
d'accord.
Autour du deuil essentiellement. Hein,
d'accord.
Puisqu'il s'agit de comment on accompagne, comment on prépare ces choses-là, etc. On peut aussi téléphoner à l'hôpital éventuellement des enfants et si on a la chance d'avoir un créneau avec la secrétaire, on peut avoir une adresse.
Secrétaire qui est très très gentille et très disponible, ce qui ne doit pas être facile compte tenu du travail, j'imagine, très important que vous avez à faire là-bas. Docteur Michel Vigne, vraiment, je vous remercie. C'était très intéressant. On n'a évidemment pas pu couvrir le champ extrêmement large de cette question, mais ben, c'était quand même intéressant, on a appris des choses. Je remercie Elsa et je remercie Jeff également. Je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu le lundi 26 novembre à 19h. Ça concernera l'errance et les jeunes. Et que vous pouvez nous réécouter mardi, donc demain, de 11h à 12h. Et dans la nuit, pour les noctambules, de mardi à mercredi, de 1h à 2h. L'adresse email où vous pouvez nous écrire, c'est sousle-rocher@gmail.com. Le numéro de téléphone durant le direct ici, c'est 05 62 27 23 23. Merci à Michel qui s'impatiente à la technique, qui nous trouve toujours des musiques extraordinaires. Et bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.